Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. En présence de Gilbert David, bonjour.
Bonjour.
Allez, on le rappelle pour les auditeurs, vous êtes le président de la LPO Drôme.
Voilà, de la LPO Drôme, parce qu'il y a la LPO nationale et puis il y a des associations indépendantes qui sont rattachées à cette LPO nationale. Et on œuvre tous ensemble pour la biodiversité.
Et puis, pour terminer avec la LPO, ça veut dire Ligue de Protection des Oiseaux, mais vous allez beaucoup plus loin. Tenez, décrivez-nous un peu l'ensemble de votre champ d'action.
Pour faire un petit historique de la chose en Drôme, il y a maintenant pratiquement 40 ans que des personnes se sont rassemblées pour faire des inventaires de faune. Alors, là, il y a 40 ans... on s'appelait le groupe Drômois d'études et de recherches sur les vertébrés. Donc c'était déjà plus large. Et on était une bande de copains, en fait, qui se sont dit il y a presque plus de faune dans la nature. Il y avait très peu de chamois, il n'y avait pas de cerfs, il n'y avait pas de marmottes, il n'y avait pratiquement plus rien. Donc on s'est dit
il y a 40 ans, on avait décimé toute la faune sauvage de la Drôme.
Pratiquement, hein, c'était assez catastrophique. Et grâce un peu, entre autres, à nos actions, mais pas que, on a pu faire remonter le nombre de chamois. Il y a eu des réintroductions de marmottes, et puis cerfs, chevreuils sont en suivi. Et puis, de fil en aiguille, on a fait des adhérents, on a un peu grossi. On s'est appelé ensuite CORA, Centre Ornithologique Rhône-Alpes, qui était déjà au niveau Rhône-Alpes, comme son nom l'indique, et on s'est fait une section Drôme. Et puis, il y a quelques années, la LPO nous a contactés en disant bah, « ça serait bien de se rassembler sous le même vocable ».
La LPO, c'était un autre organisme, en fait.
C'était la LPO nationale, comme son nom l'indique, c'était au niveau national, et ils voulaient un peu décentraliser sur les départements et les régions. Et c'est comme ça qu'on s'est appelé donc LPO, Ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité, Drôme, donc pour le département, pour nous.
L'intérêt pour la LPO, c'était quoi? C'était de vous déléguer des compétences, de vous en apporter des nouvelles ou alors de s'agrandir un peu, d'agrandir son champ d'action?
Disons que la LPO, au tout départ, il y a 100 ans, parce que maintenant elle a 101 ans, c'était aussi un peu des naturalistes qui voulaient lutter contre la destruction des macareux en bordure de mer. Donc,
d'où le logo, hein, d'ailleurs.
Voilà, donc ces deux macareux qui s'embrassent là. Il y avait des chasses où les Parisiens arrivaient en train pour tirer sur les macareux parce qu'ils trouvaient ça sympa. Hein. Donc, enfin bon, chacun s'amuse comme il peut. Il y en a qui tuent, nous on protège. Voilà, donc grâce à cette action, le macareux a été protégé et a été sauvé de la destruction complète. Donc ça, l'LPO national a commencé comme ça. Et puis après, au fil des années, elle a pris un peu d'importance. Maintenant, c'est l'association naturaliste la plus importante de France. Elle est même à niveau national, elle s'est attachée à d'autres structures internationales. Donc, on agit même au niveau international par moment. Voilà. Tandis que nous, on était toujours sur notre Drôme, celle qui nous intéresse. Et par divers contacts, on s'est dit c'est quand même bien d'avoir une unité dans nos actions. On poursuit les mêmes actions de biodiversité et c'est comme ça qu'on est arrivé à la LPO Drôme.
Ce terme de biodiversité que vous rattachez à votre antenne drômoise, a-t-il été rattaché aussi au niveau national du coup?
Oui, du coup, comme Rhône-Alpes, enfin maintenant tous les départements de Rhône-Alpes sont devenus LPO. Avant, chacun avait son sigle, c'était un peu disparate, il y avait une mauvaise lisibilité. Maintenant, on parle de lisibilité, évidemment, pour la communication. Donc, on s'appelle tous LPO. Donc, nous, Drôme, Isère, Haute-Savoie, Savoie. Donc, toutes les LPO se sont rassemblées. Même le CORA, donc, qui était Rhône-Alpes, s'appelle maintenant LPO Rhône-Alpes. Mais nous sommes quand même des associations indépendantes, avec des actions indépendantes, avec nos spécificités. Donc on a nos actions propres.
Pour parler encore un petit peu des oiseaux, je me rappelle d'une fois, vous étiez venu dans le studio pour nous parler d'un massacre en règle qui se passe dans les plaines du Rhône.
Oui, c'était sur les alouettes.
Les alouettes.
Alors c'est vrai qu'il y avait eu à l'époque...
C'était il y a 2 ans, il me semble.
Voilà, à peu près 2 ou 3 ans. Et il y avait eu un coup de froid qui avait rassemblé des milliers d'alouettes dans la plaine de Valence et de Montélimar. Et les chasseurs s'en donnaient à cœur joie là-dedans. Ils avaient même dévalisé, paraît-il, des armureries
voilà,
pour pouvoir se ravitailler avec des cartouches.
Aberrant.
C'était absolument aberrant. Donc j'avais téléphoné à l'époque au préfet, et c'est le sous-préfet de Nyons qui s'en était ému. Et donc on avait pu faire une action dans ce sens-là, quoi.
Et donc ça s'est plutôt bien terminé. Vous avez réussi à bloquer ce massacre ou...
C'était déjà un peu tard, mais ça a eu des réactions quand même. Il y a eu il y a une vigilance maintenant qui a été instaurée pour justement éviter le renouvellement de ces massacres.
Ça ne s'est pas passé cette année ? Il n'y a pas eu le coup de froid qui a permis qu'elle repasse ?
Heureusement qu'il n'y a pas eu ce coup de froid, parce que je ne sais pas trop comment ça peut arriver. Hein.
Ouais.
On peut s'attendre à tout des fois.
Donc en fait, on n'a pas pu tester si les mesures préventives vont fonctionner ou pas, s'il y aura un respect.
J'espère qu'on n'aura pas à déplorer ce genre d'exaction.
Allez, Gilbert David, vous êtes avec nous puisque vous êtes réunis hier soir justement. Alors ça ne dira pas grand-chose aux auditeurs puisque je ne sais pas quand est-ce que cette interview va être diffusée. Ouais. Pour mettre en place le programme de l'année, enfin, ou une partie en tout cas.
L'alpéodrome a des sections locales aussi, ce qu'on appelle des groupes locaux. Il y en a un dans le nord Drôme, il y en a un autour de Montélimar, un autre autour de Nyons, et nous, dans le Diois, j'ai monté aussi un groupe qui s'appelle le groupe local Diois de l'ALPO. Hier soir, on s'est réunis pour faire un programme de nos activités, de nos sorties pour le prochain semestre, dont nos activités.
Donc on va se concentrer en fait là sur les activités proposées par l'antenne de Die,
groupe de Die. Là, on est sur autour de Die,
eh bien,
parce qu'en fait, vous savez bien que la Grôme, c'est un peu long, donc les déplacements, on n'est pas trop pour se disperser trop. Mais on s'occupe surtout de Die et de ses environs, du Diois en fait. Hein. Voilà, donc on a fixé 2-3 dates, enfin même plusieurs d'ailleurs. Le 22 février, par exemple, il y aura Michael Séguier, qui est un administrateur de la LPO Drôme, qui va nous entretenir, nous former sur la chouette effraie. Et la chouette effraie, je ne sais pas si vous le savez, mais est en diminution très forte dans la Drôme. C'est une espèce, on l'appelle aussi la dame blanche, donc c'est tout un symbole. Au départ, elle a pris ce nom-là, enfin on lui a donné ce nom-là parce qu'elle effrayait les gens qui veillaient les morts. Alors c'était tout un symbole. Lorsqu'on veillait les morts avant, on laissait des bougies sur les fenêtres pour montrer, enfin pour avertir qu'ils avaient un décès dans leur famille. Et les chouettes, enfin entre autres, s'approchaient de cette lumière. Et comme les gens veillaient, ils voyaient la chouette et ils pensaient que c'était elle qui avait apporté la mort, alors que pas du tout, c'était juste parce qu'elle était attirée par la lumière. Donc,
elle était massacrée pour cette raison, comme voilà, le corbeau de mauvais augure.
Elle était même clouée sur les portes des granges parce qu'on pensait que c'était elle qui apportait la mort.
Bien, on a bien fait de grandir, mais des fois ça...
Oui, il y a des trucs un peu bizarres, l'imagination humaine n'a pas de limite.
Et donc, et pour quelle raison est-elle en diminution là, en ce moment ?
Alors, en ce moment, c'est une espèce qui est plutôt méditerranéenne, elle n'est pas très nordique. Et les grands coups de froid, elle n'aime pas trop. Quoi. La reproduction est mauvaise, elle meurt. Et puis, lorsqu'il y a beaucoup de neige, ce n'est pas cette année, c'est bien pour elle. C'est qu'il n'y a pas fait trop froid, il n'y a pas eu trop de neige. Elle mange pratiquement que des souris, des mulots, des musaraignes, enfin des micro mammifères qu'on appelle. Donc lorsqu'il y a beaucoup de neige, elle ne peut pas les trouver et elle meurt soit de faim, soit si elle ne meurt pas, elle est trop faible pour la reproduction plus tard. Donc ça pose des problèmes. Et aussi les pesticides qui sont dans les champs peuvent, bon, qui tuent les micro-mammifères, donc ça tue aussi les chouettes effraies, chevêches aussi d'ailleurs, enfin tous les animaux qui se nourrissent des micro-mammifères.
Mais du coup, enfin une petite activité humaine que l'on peut le modifier, parce que le climat, à la limite, si finalement elle est plus adaptée ici, que peut-on faire ?
On pourrait croire qu'avec le réchauffement terrestre, au contraire, elle va plutôt se développer s'il y avait assez de nourriture. Elle se reproduit surtout près des maisons, parce que c'est là où il y a encore le plus grand nombre de souris et de mulots, de rongeurs. Et le problème maintenant, c'est qu'elle niche dans des trous, ce qu'on appelle un oiseau cavernicole, qui va dans les trous des mûriers, dans les trous des grands arbres, des vieux arbres. Et comme il y en a de moins en moins, enfin, on coupe ces arbres-là. Oui, pardon. J'espère que ça va revenir. Mais bon, enfin, que les arbres grossissent. Pour un petit moment. Donc, elle s'était réfugiée dans les granges, dans les maisons. Parfois, il y en a qui m'ont dit « Ouais, j'entends des drôles de bruits dans mon grenier. » C'est des fois, enfin, c'est pas toujours, mais des fois, c'était une effraie qui piétait la nuit pour aller nourrir les petits qu'elle avait dans cette grange ou dans le grenier de maison. Malheureusement pour elle encore, pour nous, c'est peut-être pas pareil, mais enfin, on isole de plus en plus, donc on ferme toutes les ouvertures dans les maisons. Et c'est donc un nouveau problème pour elle, c'est de trouver un lieu de reproduction. Et c'est donc un groupe de la LPO qui s'est formé pour elle, qui s'appelle le groupe Effray d'ailleurs, et qui incite les gens à faire des nichoirs pour la chouette Effray. Et c'est donc ce jour-là qu'il y a Michael qui s'en occupe particulièrement et qui vient nous parler plus approfondir le sujet et nous montrer comment faire un nichoir qui est assez imposant parce que c'est la chouette, elle est un peu grande, et puis qu'il lui faut de la place aussi pour dedans. Donc c'est un nichoir assez spécial pour elle, quoi. Et si y a, bon, bah, après je pourrais donner les contacts. Hein,
bien sûr, on donnera tout ça à la fin, ce sera plus simple.
Voilà. Une autre activité, là, c'est le 22 mars. Où on fait une sortie chant d'oiseaux. Alors ça, c'est inscription obligatoire parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup de monde. Souvent, donc, c'est réservé déjà en priorité aux adhérents, puis après aux DIWA. Le rendez-vous est à 7h30 au camping municipal. Donc là, ça sera une sortie pour écouter les chants et puis en apprendre un peu plus pourquoi, comment... Voilà.
Dans quel milieu une forêt UBA cadrée
Alors,
quel type d'oiseau
la dernière fois que j'avais fait cette matinée, on était allé vers la Croix de Justin. Enfin bon, on avait là des par là. Donc il y a des milieux ouverts avec les champs, les cultures. Puis après, on est allé en forêt pour voir d'autres espèces d'oiseaux chanteurs. En forêt, c'est très intéressant de connaître les chants d'oiseaux parce qu'on les voit moins bien que dans les milieux ouverts, évidemment.
Quels sont quelques-uns des oiseaux vraiment caractéristiques du Diwa ?
Or, le plus
qu'on
courant,
prend plaisir à entendre.
Voilà, ouais, le plus courant, en fait, c'est la fauvette à tête noire. On fait tous les ans des suivis temporels des oiseaux communs avec des règles très précises. C'est des écoutes de 5 minutes, toujours aux mêmes époques. Donc, c'est deux fois, une fois au printemps tôt, une fois au printemps un peu plus tard pour les nicheurs tardifs. Et ces suivis-là ont montré que... Donc, ça se fait dans toute la France déjà. Dans la Drôme, on est bien représenté parce qu'il y a au moins une trentaine de points d'écoute, enfin de carrés, ce qu'on appelle. Hein. Dans chaque carré, on fait 10 points d'écoute. Enfin, c'est très précis comme protocole. Et ce suivi-là montre que en France, la fauvette à tête noire, c'est l'oiseau le plus courant qui chante et qu'on entend. C'est peut-être pas celui qui est le
devant
plus...
le pigeon.
Oui,
devant le pigeon
oui,
commun.
Oui, même, parce que le pigeon, il est très courant en ville, donc on le voit bien. Mais déjà, dès qu'on va en campagne, il est moins courant. Et puis en forêt, il est encore moins, quoi. Donc là, cette espèce, on appelle une ubiquiste, c'est-à-dire qu'elle est un peu présente partout. Autant on peut la voir en ville, là, à Die, ou dans les campagnes, ou même en forêt. Donc c'est l'oiseau qu'on entend le plus souvent, qui est noté le plus souvent par les naturalistes, par les ornithos, suivi après par le pinson des arbres. Alors, le pinson des arbres, lui, il lui suffit d'avoir un arbre pour pouvoir être heureux, donc se reproduire et trouver sa nourriture. Et puis après, ça décroît vers rouge-gorge, merle, voilà, c'est à peu près... je n'ai pas en tête toute la chronologie, mais c'est dans cet ordre-là que, pour ces oiseaux. Après, le pigeon arrive un plus tard encore.
Moi, je suis rassuré quand même. Voilà. Parce qu'on en est un peu envahi quand on est en ville de ces pigeons. Ce n'est pas toujours agréable.
Oui, oui, mais là, c'est sûr que ça pose quelques problèmes. Mais il faut qu'on puisse s'adapter et puis éviter qu'ils se reproduisent trop en limitant ces lieux de reproduction comme la cathédrale. Où l'ALPO, avec la municipalité, avait fait des... Parce qu'il y a de la chauve-souris qui se reproduit dans la cathédrale, donc on voulait faire reproduire la chauve-souris, pas poser de problème.
Donc lui laisser l'accès sans, au toit
au-dessous
de toi, quoi.
Au-dessous de toi, dans la charpente, sans que les pigeons puissent y aller. Déjà, pour moi, elle pourrait détruire la colonie de chauves-souris et en plus se reproduire. Donc, on a fait des claires-voies qui fait passer la chauve-souris qui est toute petite et ne pas faire passer le pigeon. Donc, éviter qu'il se reproduise trop, quoi.
Alors, pour parler juste de Die, depuis que ce toit de cathédrale a été refait de cette manière, les pigeons ne savent plus où aller. Hein, et donc, ils sont là sur nos toits de nos locaux, par exemple. Rue Joseph Reynaud, ils ont fait des sacrées ouvertures pour pénétrer les charpentes qui étaient un petit peu isolées, mais pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Voilà. Quel type d'oiseaux un peu à protéger vous arrivez à entendre quand même régulièrement dans ces écoutes?
De temps en temps, on entend le bouvreuil. Donc là, il n'a pas un chant très élaboré, donc ça va. Par contre, on entend très bien la citelle aussi. La citelle torchopeau est un des oiseaux les plus courants. Elle est en train de chanter déjà dans les jardins en ce moment. Donc en février, là, elle commence. Autrement, celui qui est... Je réfléchis un peu sur l'oiseau qui pourrait...
Qu'on est content d'entendre, quoi. Ah, on l'a entendu, ah bah, il est encore là.
Oui. Il y a la huppe, par exemple, qui est très récent. Au printemps, elle arrive un peu plus tard, elle, vers le mois de mars, avril, où elle est souvent en migration. Donc, moi, je suis très content quand j'entends la huppe, avec son houpoupoup, là, qui est intéressant. Elle se reproduit dans les remparts. Pareil, il faut qu'elle trouve des trous. Hein. On m'avertit, on me téléphone, on me dit « Tiens, j'en ai une dans mon jardin, c'est vachement content. » Elle va chercher, avec son bec un peu assez long et pointu, elle va chercher des vers de terre dans les jardins et tout ça. Et les gens sont très heureux de voir la huppe. C'est vrai que c'est un oiseau assez particulier, assez caractéristique aussi, et assez intéressant à voir. Quoi. Enfin, moi, ça me plaît bien.
Écoute d'oiseaux le 22 mars, 22 avec mars. Un départ à 7h30. Il fait encore un peu frais.
Voilà, oui, oui, ça, des fois, c'est l'inconvénient des chants d'oiseaux, c'est qu'ils chantent assez tôt le matin, et puis après c'est le soir, mais un peu moins.
Et vous parliez d'ailleurs de ces écoutes au début du printemps et la fin du printemps, c'est parce que c'est la période de reproduction, donc, ou pas du tout, ou
voilà,
c'est le moment où ils chantent plus?
Il y a deux sortes d'oiseaux, si vous voulez. Il y a les oiseaux sédentaires, qui se reproduisent plus tôt, et les oiseaux migrateurs, donc qui viennent un peu plus tard, et donc qui se reproduisent plus tard. Et c'est pour ça qu'il y a deux périodes assez marquées dans le printemps. Alors la migration s'étale sur tout le printemps, hein, ça commence pratiquement maintenant, là, et puis ça se termine au mois de mai avec la bondrée apivore, par exemple. C'est un rapace qui mange que des guêpes ou des larves. Elle nourrit ses petits avec des larves de guêpes qu'on trouve dans les champs. Et vous voyez qu'il ne faut pas que ce soit trop tôt non plus. Donc elle vient très tard. Et elle part très tôt aussi d'ailleurs, parce qu'au mois d'août, elle est déjà partie, quoi. Voilà. Donc, puis il y a les martinets aussi, qu'on connaît bien, donc ils viennent très tard aussi. Et c'est pour ça qu'on fait deux temps d'écoute pour faire ces suivis temporels des oiseaux.
Ensuite, prochain autre rendez-vous.
Alors, un autre rendez-vous, c'est autour de la mi-avril, le 12-13 avril, où on ferait une sortie au Bouligan. C'est un marais qui se trouve en allant sur Borrières. Donc là, on irait plutôt voir des batraciens. Il y a un nouveau sentier qui a été fait par le Conseil Général, donc on va voir ça. Et puis, il y a encore un oiseau rare là-bas, qui est le Raldo. Donc on essaiera de le voir sans le déranger. On suivra n'importe comment le sentier qui est obligatoire. Et puis, on essaiera de voir des batraciens, donc ça serait plutôt une sortie batracien et Raldo. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais après, la nature fait ce qu'elle veut, elle nous montrera bien ce qu'elle veut.
Le marais des Bouligons, au mois d'avril, a-t-il beaucoup bougé, suivi les fluctuations de l'hiver, genre de choses? Qu'est-ce qui est important d'observer sur ce haut lieu, on va dire, de biodiversité?
Là, il n'y a pas encore beaucoup de feuilles aux arbres, donc on peut voir aussi des oiseaux dans la forêt qui est tout proche. On peut voir aussi le marais qui a pris trop de végétation. Donc c'est assez intéressant au printemps comme ça de voir ce marais sous cet angle-là.
C'est-à-dire qu'on peut même voir dans l'eau, plus profond dans l'eau.
À certains endroits, on peut bien voir, oui. On pourrait peut-être voir aussi peut-être le castor qui tourne dans le coin, là. Je ne dis jamais trop ce qu'on va voir, parce que si on ne le voit pas, les gens sont déçus. Je préfère en dire moins et puis en montrer plus que le contraire.
Oui, c'était simplement voir plus la question du suivi même de la bonne vie de ce marais, puisqu'il est quand même à surveiller, il a une importance pour la Drôme, il permet de remonter.
S'il fluctue un peu avec le temps, avec les saisons. Et c'est vrai que c'est un marais qui est assez intéressant pour... au point de vue milieu humide dans le Haut-Diois.
Est-ce que vous êtes les seuls, la LPO Drôme ou la cellule diouaise, à observer la vie de ce marais ou d'autres? Est-ce que du coup vous êtes le signal d'alarme s'il se passe quelque chose?
La LPO a une convention avec le Conseil Général pour suivre surtout le Raldo. Tous les printemps, Sébastien Blache, qui est un des salariés de la LPO Drôme, va sur les lieux pour dénombrer les raldos par le chant. Bon, ça fait vraiment un peu un râle, d'ailleurs, pour que ça qu'on l'appelle. C'est pas un chant très harmonieux. Et donc, on fait un suivi chaque année pour le Conseil Général sur cette espèce-là. Mais tout le monde peut aller se promener là-bas. D'ailleurs, je vois, toutes les fois que j'y vais, je rencontre du monde avec qui je discute, qu'on entretient, et ils sont très heureux de se promener dans ce milieu-là qui est assez particulier et assez original pour le Haut-Diois en tout cas.
Est-il respecté ce lieu à la hauteur de sa préservation?
Je pense, oui. Enfin bon, on ne pourra jamais empêcher quelques dégradations par des malveillants, mais moi, je trouve que c'est assez bien quand même. Je trouve qu'il est assez respecté quand même. Oui.
Y a-t-il d'autres rendez-vous encore?
Donc après, nous allons voir une séance de bagages à combo avec Sébastien Blache qui fait des études de bagages en relation avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le stock, le suivi temporaire des oiseaux communs. Mais lui, il fait d'une autre façon. Au lieu de le faire à l'écoute comme nous, enfin comme la plupart des gens, il le fait par la capture dans des filets d'oiseaux qu'il bague, qu'il mesure. C'est le Muséum d'histoire naturelle qui chapeaute ça à Paris et qui délègue à la LPO Drôme, entre autres, là, pour Combo, en tout cas. Et donc, le groupe d'Ivois ira donner déjà un coup de main pour planter les filets et puis regardera un peu Sébastien Blache, là encore notre salarié qui est bagueur, qui va suivre cette étude. Et voilà, donc ça sera une sortie d'une journée aussi. Et ça sera en mai. Je n'ai pas encore fixé la date parce que ça dépendra bien du bagueur, justement. Et donc là, on faudra me recontacter à ce moment-là pour faire cette sortie.
Ces bagues, c'est des bagues de suivi ou c'est simplement des bagues pour se dire « oui, j'ai déjà attrapé cet oiseau ». Ont-elles une puce? On peut les repérer en GPS, genre de choses, là, comme on entend parler souvent sur des animaux?
Sur ce lieu-là, il y a eu pendant pas mal d'années, au moins 5 ou 6 ans, dans le passé, un suivi un peu particulier sur le merle à plastron, où on mettait des bacs de couleurs qu'on pouvait voir de loin. Et cette étude-là est terminée. Elle était en relation avec le parc naturel régional du Vercors, avec la réserve des hauts plateaux, et puis donc toujours le muséum d'histoire naturelle. Donc c'était une collaboration entre tous ces organismes. Là, c'est un suivi maintenant annuel, où il y retourne aussi plusieurs fois, évidemment, avec un protocole très particulier fixé par le muséum. Et là, on ne met que des bagues du muséum, qui est en cuivre, je crois, enfin en métal en tout cas, avec un numéro, avec muséum et tout ça. Et lorsqu'on récupère ces oiseaux, s'ils vont en Afrique ou ailleurs, s'ils sont migrateurs, on peut dire cet oiseau a été bagué tel jour à tel endroit. Donc ça, c'est intéressant pour le suivi des migrations, mais aussi pour la reprise sur place des années plus tard. Et ça donne des idées sur la longévité de l'espèce aussi, quoi. Donc c'est deux points différents. Et puis on peut aussi avoir l'état de la population, parce qu'on regarde s'ils ont des réserves de graisse, donc c'est un truc particulier, hein. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'en fait ces bagages-là, que des becs croisés qu'on a attrapés à Combo venaient d'Espagne. Donc c'était intéressant. Après on fait des études particulières sur les maladies peut-être, ou sur autre chose, quoi.
Un oiseau peut se retrouver avec plusieurs bagues comme ça, il a été capturé par le muséum, puis après par je sais pas qui en Espagne, puis...
Non, en fait, non. Quand un oiseau est bagué, il garde sa bague, et s'il est repris, il est simplement noté. Et pour ça marche par internet maintenant, mais ils gardent qu'une seule bague.
Bon, ça va, ouf.
Ouais. Non, c'est les Espagnols vont pas en mettre une, les Roumains ou tout. Mais bon, ils sont suivis, et puis c'est comme ça qu'on arrive à connaître un peu la dynamique des populations et puis les migrations.
Un mot sur la capture au filet, ça fait peur quand même.
Alors c'est
pas sympa.
C'est des filets qui sont assez particuliers, hein, qui sont pas, mais ils sont pas mortels, heureusement. Ils ont des poches, et lorsque l'oiseau touche le filet, il tombe dans une poche, et puis après on peut le récupérer facilement. On le met dans des petites poches en tissu. Et quand ils sont dans le noir, l'oiseau est rassuré, donc il n'y a pas de problème. C'est des filets d'une vingtaine de mètres, je crois, enfin entre 15 et 20 mètres, qu'on met à certains endroits, toujours les mêmes, justement, pour que le suivi soit pertinent. Et Sébastien les récupère, mesure la longueur de l'aile, le poids, on le pèse aussi avec un peson. On met la bague, il met la bague quand il n'y en a pas. Autrement, il les relève. Et on suit sur un cahier très précisément toutes ces données. Et on le relâche aussitôt, donc c'est très rapide.
Comment ça se fait que l'oiseau se prend dans ce filet? Il ne le voit pas
Oui, c'est entre des arbres, c'est dans des endroits qui sont un peu dissimulés. Et donc, ils se font prendre. Des fois, il y a un oiseau qui s'était fait prendre deux fois de suite parce qu'il n'avait pas compris le truc. Mais enfin, c'est assez rare, hein, quand même. Voilà. Donc, et puis, on passe très régulièrement parce qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps dans ces filets. Donc, le protocole dit qu'il faut passer à chaque filet toutes les demi-heures, quoi. Donc,
ouais, pour être sûr qu'ils ne rôdent pas dedans. Ouais.
Voilà, qu'on ne les laisse pas longtemps dedans.
Et tous les oiseaux se font prendre de la même manière, ou est-ce que le rapace serait plus intelligent ou moins? Est-ce que ça, on a pu voir que des espèces...
Ça n'attrape pas des rapaces parce que c'est des filets quand même qui ne sont pas très hauts. Ils font 2,50 m de haut. Les rapaces passent au-dessus des arbres souvent. Je n'ai pas d'expérience. Le seul gros oiseau que je me rappelle, ça a été une exception, c'était un héron cendré qui était... On faisait du bagage avec François Imbert, qui est aussi un bagueur de la LPO, dans les roselières du confluent de la Drôme et du Rhône. Et on avait mis un filet, là. Donc là, on s'était levé à 4h du matin pour les mettre bien dans la nuit. On faisait de la repasse pour prendre des passereaux. Et puis, un jour, on a tombé sur ce héron qui était coincé dans le filet. On a mis des gants et tout, parce qu'un coup de bec de héron, ça fait mal. Mais c'est le seul moment où on a attrapé un gros oiseau. Autrement, ce sont que des passereaux.
Et y a-t-il des oiseaux qui ne se font, pas attraper ? C'est-à-dire qu'ils savent que le filet, non, hop.
Alors, il y a des oiseaux qui sont assez malins parce que dès qu'ils voient bouger ces trucs-là, hop, ils passent par-dessus. Alors, mais bon, je pense que dans toutes les espèces, il y a des oiseaux qui peuvent être plus attentionnés. Enfin, souvent, c'est le moment de la reproduction quand même. Et ils pensent plus à la reproduction qu'au filet. Donc, par moment, on passe aussi de la repasse. Donc, on les attire un peu avec un magnétophone, là. C'est quand on veut faire des études sur des espèces très précises, quoi.
Alors, vous mettez un apôt
Un genre d'apôt, là, ouais. Oui. Alors, ça a du lever du jour jusqu'à 9h du matin maximum, quoi. Après, on arrête tout pour les laisser tranquilles.
Bien, donc ceci nous voilà. A amené au mois de mai. Reste-t-il encore des rendez-vous?
Ensuite, après, on pensait faire aussi une sortie... plutôt sur le haut d'Iwa, vers le Boulk, mais on n'a pas encore bien fixé toutes les dates aussi, plutôt une sortie flore et papillon. Bon, faut qu'on, là, on a encore les contacts à prendre, quoi. Donc, mais entre le mois de mai et le mois de juin, là, donc, il y aura une sortie papillon.
Alors, on a parlé
avec un spécialiste des papillons.
On a souvent parlé des papillons aussi sur cette antenne, avec Jean-Claude Rouchouz notamment.
Oui.
Alors, j'invite les auditeurs à aller écouter ces émissions. On ne va pas détailler, mais on a beaucoup d'espèces de papillons dans la Drôme et dans le Diois. Oui. Et c'est assez intéressant.
Oui, c'est vrai que bon, les papillons sont des espèces qui sont très, très communes dans le Diois. Et il faut savoir qu'il y en a 10 fois plus de nocturnes que de diurnes. Donc, on en voit très peu par rapport à ce qu'il y a, quoi. Il y a des papillons qui, comme la processionnaire du pin, qui ne sont pas toujours sympathiques pour nos arbres, bien qu'ils ne les détruisent pas, hein, faut pas non plus exagérer. Mais enfin, il y a beaucoup d'espèces de papillons et qui sont dans les jardins et... Très intéressant.
Oui, la processionnaire du pin, c'est celle qui fait un petit filet en haut des arbres et on n'est pas content, là, un cocon.
Les cocons blancs, là, qu'on voit sur les arbres. Là. Bon, ça, c'est la chenille. Hein.
C'est la chenille, oui, c'est pas l'oiseau. C'est pas le papillon. Pardon.
Il vole, mais c'est pas un oiseau.
Alors, on mélange tout.
Voilà. Et autrement, donc, il y aurait en juin une autre sortie, enfin, dont on n'a pas précisé, parce qu'il faut que je contacte aussi les salariés qui s'occupent des chauves-souris. Et qui serait, donc on ferait une sortie chauve-souris en juin, avec dans un programme peut-être aussi d'études des chauves-souris. On a à la LPO Drôme 2 salariés à plein temps sur l'étude des chauves-souris, qui est une espèce, enfin qui sont des espèces qui se maintiennent difficilement. Elles sont toutes protégées et donc on essaye de faire des suivis, des études, pour voir quel est leur comportement. Et donc, on irait, donc le groupe irait les aider dans ces études-là.
Ça va concerner les chauves-souris que vous suivez très particulièrement dans la vallée de la Roanne ou peut-être celle de la cathédrale, enfin, ou...
Voilà, alors, peut-être pas celle de la cathédrale, mais peut-être, oui, vers la grotte des Sadoux, où il y a des chauves-souris. Or, il y a des suivis qui sont très programmé là, mais on fait aussi des études dans le sud de la Drôme et aussi dans le Vercors. Donc ça dépendra un peu de leur programme d'études et là je donnerai plus de détails dans le courant mois de mai. Voilà.
Juste pour terminer sur les chauves-souris, la colonie qui est dans le toit de la cathédrale est importante?
Oui, je ne suis pas un spécialiste de la chauve-souris, mais c'est une des colonies les plus importantes de grands murins. C'est une espèce particulière, une chauve-souris déjà assez conséquente. Hein. Ce n'est pas un petit pipistrel, c'est pas une petite chauve-souris, c'est déjà une chauve-souris assez importante et qu'on peut voir à la tombée de la nuit d'ailleurs, mais que l'été parce que l'hiver, elle n'est pas là.
Elle migre.
Elle migre dans d'autres endroits. On s'est aperçu que ces grands murins qui se reproduisent dans la cathédrale peuvent aller chasser sur le plateau d'Albel. Donc tous les soirs, ils font des allers-retours quand même assez importants
Ah oui,
pour aller chercher leur nourriture.
Trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, quoi.
Voilà, facile. Oui. À vol de chauve-souris.
À vol de chauve-souris, bien sûr. Précisons.
Voilà.
Eh bien, merci Gilbert, David, pour ces quelques rendez-vous. Alors, c'est bien le moment de donner les coordonnées puis pour se tenir au courant. Et puis, vous disiez que vous distribuez. Après, il y aura un programme qui sera un peu...
Tous les trois mois, on a un petit journal, si vous voulez, une petite revue qui fixe un peu toutes les, tout, à la dernière page tout l'agenda du trimestre qui suit. Donc là, il y en a un qui va sortir au mois de mars, là, LPO Info, Drôme. Et c'est un petit document qui retrace un peu toutes les activités du trimestre précédent et puis les programmes de, donc du trimestre suivant.
Où le trouve-t-on ?
Qu'à la LPO-Drôme, parce qu'il n'est pas distribué, c'est sûr. C'est surtout un lien en fait, entre adhérents. Mais celui qui veut le demander peut l'avoir facilement. Sinon, j'ai un mail si, pour ceux qui veulent me contacter. C'est gilbert.david@lpo.fr. Donc tout en minuscule. Autrement, j'ai un numéro de téléphone, le 06 52 63 91 55. Mais par mail, moi j'aime bien parce que comme ça, ça laisse des traces et puis je peux répondre facilement. Par téléphone, je ne suis pas toujours joignable. Et le portable, je n'ai pas souvent. Je ne suis pas un fanat du portable.
Et puis, bien sûr, on invite les gens à aller sur Internet, sur le site de la LPO nationale, en attendant que le vôtre soit terminé.
Disons qu'on a un site régional déjà. Donc, oui. LPO, on tape LPO Rhône-Alpes et on a un site où on a une page, on a plusieurs pages dédiées à la Drôme. En attendant notre site qui est en construction, et il paraîtra fin de l'année 2014, on arrivera à avoir un site personnel bien. Alors je leur ai dit qu'il fallait que ce soit simple, hein, parce que je ne suis pas un fanat d'informatique non plus. Je suis plutôt un homme de terrain, moi. Donc je leur ai dit que si moi je pouvais m'en servir, tout le monde pourrait s'en servir après. Voilà, donc il faut attendre encore un petit peu pour le site Dromois.
Eh ben, on attendra encore un petit peu. Et puis, vous l'avez dit, c'est réservé aux adhérents. Alors, on invite tous les auditeurs à adhérer. Ça fait toujours du bien d'avoir...
Voilà, oui, c'est ça, bien sûr. C'est plus la LPO Drôme aura de membres, plus on aura des arguments pour défendre la biodiversité et la faune sauvage dans son ensemble.
Gilbert David, président de la LPO Drôme, merci.
Merci à vous.
Et à la prochaine.
Et bonne journée.
Interview.
Ok, de belle.
Interview. L'interview du jour.